Le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, en partenariat avec ACT Commodities sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bienvenue sur Radio Immo et sur Radio Territoria. Je suis ravie de vous retrouver en direct de la porte de Versailles pour ce deuxième jour du salon de l'AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France. Et j'ai le plaisir justement d'être avec un des maires d'Île-de-France et pas n'importe lequel. Patrice Leclerc, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes déjà maire de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine et également vice-président de l'AMIF en charge de la politique de la ville.
C'est exact.
Alors justement, on va discuter de la politique de la ville, on va parler aménagement, on va parler logement, on est en pleine crise du logement, hein. On subit de plein fouet cette crise du logement, et vous, en tant que maire, c'est vrai que vous êtes au premier front, en premier front face aux besoins de vos habitants. On va en discuter, justement, on va parler logement social, il n'y a jamais eu autant de demandes. Première question, alors, l'AMIF, vous êtes chargé donc de la politique de la ville, qu'est-ce que quelles sont les missions que vous menez?
Alors, sur la politique de la ville, parce qu'il peut y avoir une confusion pour les auditeurs qui ne connaissent pas les politiques municipales ou les politiques nationales, c'est ce qui s'adresse aux quartiers qu'on appelle les quartiers prioritaires, ouais, qui sont choisis nationalement par l'État en fonction du degré de pauvreté des habitants. Et donc, c'est là où on essaye d'appliquer, ou devrait être appliqué, le fait de donner plus là où il y a le plus de besoins. Donc c'est une des revendications, par exemple, des maires, c'est que les quartiers politiques de la ville soient aussi des quartiers où les écoles soient reconnues REP, REP+, c'est-à-dire avec plus de moyens que dans le droit commun. Il y a aussi plus de subventions pour les associations. Donc le rôle au sein de la MIF, de l'Association des maires d'Île-de-France, c'est de faire ce travail de lobbying.
Donc d'identifier les quartiers prioritaires,
c'est ça ? Alors, c'est pas nous qui les identifions, c'est l'État. Mais nous, après, c'est d'essayer de défendre les moyens qui sont donnés à ces quartiers.
Donc de flécher les investissements.
Voilà, de flécher, d'accord, les investissements, de rentrer en dialogue avec les différents ministres pour que cela soit bien fait. Et nous travaillons avec d'autres associations comme Ville et Banlieue, comme Ville Urbaine et l'AMF aussi, qui a une commission politique de la ville, où on se retrouve ensemble souvent avec les différents ministres. Dans nos revendications, on organise des CIV, enfin on n'organise pas, on pousse l'État à organiser des CIV, des comités interministériels de la politique de la ville, pour faire en sorte que l'État ait vraiment une politique spécifique en direction de ces quartiers. C'est une lutte de longue haleine et puis dans la durée, puisque l'État a plutôt tendance à diminuer ses moyens, ah ou oui, pas respecter...
C'est vrai que les comptes sont dans le rouge en plus, donc c'est pas évident. Il faut batailler.
Il y a eu l'appel de Grigny, il y a eu un CIV organisé à Épinay-sous-Sénart où l'État avait pris des engagements, et donc nous travaillons... Et notre travail, c'est de veiller à ce que ce soit bien fait. Et après, au sein de l'AMIF, comme vice-président à l'AMIF, j'organise, grâce à l'aide des collaborateurs et collaboratrices de l'AMIF, des auditions pour aider les élus à se faire une opinion. Vous savez, l'AMIF est une association pluraliste. Moi, je suis communiste, mais il y a des gens de droite, il y a des gens écologistes, il y a des socialistes, enfin, il y a des gens qui sont à aucun parti, des élus plutôt que des gens, d'ailleurs. Et par contre, on travaille ensemble. Et donc, j'organise, on n'est pas d'accord sur tout, mais l'intérêt, c'est qu'on réfléchisse ensemble aux difficultés.
On discute ensemble, même si on n'est pas d'accord.
Et les difficultés ont lieu partout, à peu près pareil. Et donc, j'organise des auditions qui permettent à chacun de se faire une opinion à partir de ces auditions. On a auditionné un commissaire de police, on a auditionné un sociologue sur les émeutes, on a auditionné la directrice de l'ANRU, on a auditionné le ministre de la ville. Donc j'organise ces auditions-là avec mes collaborateurs et collaboratrices pour que chacune et chacun d'abord puisse poser ses questions et avoir de l'information, et aussi ensuite traduire ça dans ses politiques locales. Donc ça, c'est l'intérêt de la MIF, où on peut se forger une idée, et on a aussi de l'échange d'expérience, où chacune et chacun, à travers ces questions ou ces débats-là, peut dire ce qu'il fait chez lui, ça peut donner des idées aux autres.
Alors, on va parler de Gennevilliers spécifiquement, on va parler du logement. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain, les besoins de vos habitants? J'imagine que vous êtes aussi touché par cette crise du logement. Est-ce que ça fait partie des premières raisons pour lesquelles les habitants viennent vous voir, des premiers, on va dire, de la première préoccupation des habitants, de vos habitants?
Oui, pour moi, c'est la plus grave crise depuis les années 50 qui peuvent exister. Et dans les permanences, c'est essentiellement, voire exclusivement, du logement.
Ouais. C'est vrai. Alors qu'il y a 15 ans, on m'a dit, d'autres maires m'ont dit que c'était l'emploi.
Oui, c'est tout à fait ça.
C'est ça.
Et c'est vrai pour tous les maires. On a avant-hier une délégation de la MIF avec le président de la MIF et deux autres élus. On a rencontré le ministre des Logements, le ministre Jean Brun, où la première chose qu'on lui a dit, c'est que la situation est catastrophique sur deux plans. Le manque de logements, donc il faut construire du logement social. C'est une question extrêmement importante et donc il faut des aides pour la construction. Il faut des aides à la pierre pour pouvoir amener des constructions. Il faut des aides aux maires constructeurs qui n'existent quasiment plus aujourd'hui. Parce que quand on construit du logement social ou du logement tout court d'ailleurs, il faut agrandir les écoles, il faut plus de crèches, il faut améliorer les services publics, il faut développer les bibliothèques. Donc c'est des dépenses. S'il n'y a pas d'aide aux maires constructeurs, forcément, il y a une réflexion qui se fait de ne pas beaucoup construire, d'autant que dans la population, s'il y a beaucoup de demandeurs de logement, en même temps, il y a de la résistance pour qu'il y ait de la construction autour.
Il y a
un combat contre la densité qui peut être mené.
Ceux qui sont déjà là ne veulent pas
Non seulement on doit affronter celles et ceux qui ne veulent pas qu'on réponde aux besoins, mais qu'on n'a pas les moyens d'accueillir les nouveaux, ça devient très compliqué pour les habitants. Et puis le deuxième problème, qui est un phénomène là complètement nouveau, c'est que le logement social, et c'est grave. C'est-à-dire, dans nos campagnes électorales, il y avait deux types de mécontentement. Un, je n'arrive pas à avoir de logement. Pour vous donner des chiffres, à Gennevilliers, en 2013, il y avait 4000 demandeurs de logement et nous attribuions 800 logements par an. En 2025, il y a 7000 demandeurs de logement et nous avons attribué 353 logements. Donc on voit que le nombre de demandeurs augmente et la capacité à attribuer des logements diminue. Ouais. Elle diminue parce qu'il n'y a plus de taux de rotation, il n'y a pas assez de construction. Et donc ça fait souffrir des gens. En gros, ça veut dire qu'on est dans la métropole du Grand Paris, 11 ans d'attente en moyenne pour avoir un logement.
10 ans, exactement.
Donc vous...
sur 300 tiers, c'est 3 millions de personnes, 3 millions de ménages qui attendent un logement social. Ça n'a jamais été aussi important.
C'est aussi important, puis les délais d'attente sont très forts. En gros, vous demandez une pièce en plus pour vos enfants, c'est quand ils iront à la fac.
Du coup, on ne fait pas d'enfants.
Ils disparaîtront.
Le nombre d'enfants diminue.
Et il y a une hausse de demande aussi des petits logements, parce qu'il y a aussi plus de séparation.
Vous êtes concerné, ça, c'est vrai qu'un maire hier, je ne sais plus lequel, me disait qu'il n'avait jamais eu autant de familles monoparentales, autant de divorces dans sa ville.
C'est la même chose partout et il n'y a pas que des divorces, il y a des gens qui décident de vivre seuls et pas forcément de vivre en couple aussi, qui augmentent et ça a augmenté dans la société française. Et c'est vrai que, par exemple, quand on construit, avant on construisait de moins en moins de F2 et de studios et aujourd'hui on se remet à construire du F2. Pour toutes ces raisons-là, il y a une augmentation de la demande de petits logements aussi.
On voit qu'il y a une évolution en fait, des modes de vie, une évolution de consommation des logements.
Alors après, les gens ils vont où ils peuvent parce que la crise du logement fait qu'ils ne peuvent pas forcément. Mais il y a une demande de grands logements et une demande de petits logements. Mais les gens souffrent à tous les étages de cette demande.
Alors les bailleurs sociaux, c'est vrai que vous me disiez hors antenne qu'il y avait des complications.
Il y a des difficultés, confrontés
à des difficultés.
C'est le deuxième aspect de la crise du logement, c'est qu'on a pour la première fois, avant les logements insalubres ou les logements en difficulté, c'était dans le privé. C'est-à-dire les difficultés de propriétaires à entretenir ou les marchands de sommeil qui dégradaient du logement privé. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui n'existait pas auparavant, c'est que les bailleurs connaissent et ont des logements insalubres ou des logements où il commence à y avoir de la moisissure. Alors, il y a plusieurs facteurs à ça. Ça peut être la suroccupation de logements par le manque de logements qui fait que si on n'aère pas assez, il y a de la moisissure. Mais on a aussi un parc HLM qui a plus de 40 ans. Et donc, il y a les colonnes montantes qui pètent, il y a les toitures qui fuient, et il y a la question aussi du changement climatique où il y aurait besoin de faire des travaux de rénovation importantes.
Pour l'hiver et pour l'été.
Et quelle est la difficulté des bailleurs sociaux? C'est que l'État, en mettant la RLS, c'est ce qui a...
Réduction de loyer solidarité.
C'est bien, vous connaissez bien les sujets.
En gros,
l'État a décidé de faire payer l'APL... aux bailleurs sociaux.
En fait,
ils ont piqué l'argent dans les caisses.
La charge, le coût pour les bailleurs sociaux.
Pour les bailleurs sociaux. Par exemple, pour un organisme, un bailleur social comme celui de Gennevilliers,
c'est quel bailleur social?
C'est Gennevilliers Habitat. 9000 logements, c'est 15 millions en 5 ans qui ont disparu des caisses à cause de la RLS.
D'accord. 15 millions
On imagine que les 15 millions, ça servirait à autre chose pour l'entretien du patrimoine.
3 millions par an.
Oui. C'est, on pourrait entretenir mieux le patrimoine si cet argent-là existait encore. Ça pousse même le vice un peu plus loin. C'est-à-dire moi, je souhaite construire du logement social. Je suis obligé d'étaler les constructions parce que les difficultés financières du bailleur social sont telles que plus un bailleur social construit, plus il est en difficulté financière.
Ouais.
Et donc, on est obligé de repousser dans le temps pour pas qu'il descende en dessous de cette marge de 3% dans sa trésorerie. Donc, on a cet enjeu. Il y a des solutions. D'abord, qu'on arrête ce système de RLS parce qu'il faut redonner de l'argent aux bailleurs sociaux pour qu'ils puissent entretenir leur patrimoine. Et il faudrait aussi recréer des aides à la réhabilitation du patrimoine social. Il y a des aides pour la réhabilitation du patrimoine privé. Il n'y a plus d'aide, ce qu'on appelait avant les crédits palulos dans les années 70-80, qui permettaient aux bailleurs sociaux d'avoir des crédits pour rénover leur patrimoine. Ça n'existe plus. Maintenant, les seules aides que peut avoir un bailleur social, ça n'existe que dans les quartiers en rue, ce qui n'est quand même pas la majorité des quartiers, heureusement d'ailleurs. Et dans les autres quartiers, il y a aussi besoin de réhabiliter ce patrimoine.
Un petit mot peut-être justement avant de conclure sur c'est vrai cette année 2026, donc vous avez été réélu. C'est quoi c'est quoi vos objectifs en tant que maire de Gennevilliers? C'est quoi
le programme comprend beaucoup de choses. Ouais. Je me mets deux priorités transversales. La première, c'est d'améliorer la démocratie locale. C'est de faire en sorte que c'est pas simplement comment on informe les gens de ce que l'on va faire. C'est comment ils participent aux décisions. C'est un pari difficile parce que c'est facile à dire, c'est plus dur à faire. Et donc c'est y compris dans des projets d'urbanisme, comment on discute avant que le projet soit fait de ce que l'on peut et de ce que l'on doit faire. Pour faire cela, je viens de faire un appel d'offres, il est sorti et des entreprises ont répondu, pour organiser des assises de la démocratie locale. En gros, à l'automne, demandez aux habitants de Gennevilliers comment voulez-vous être mieux informés, mieux co-décider avec nous, et donc quels sont les moyens que vous souhaitez qu'on mette en œuvre pour permettre cela. Et le deuxième défi, c'est comment améliorer notre réponse aux enjeux écologiques, à la fois mieux participer à ralentir le réchauffement climatique. Ouais. Et comment adapter la ville à 50 degrés.
Ouais.
On l'a vu avec la canicule la semaine passée.
On a vu, oui.
Et donc, c'est des événements qu'on va avoir de plus en plus nombreux. On s'est aperçu qu'on n'est vraiment pas adapté.
Mm-hmm.
Et donc, on a besoin d'investir. On a besoin aussi d'avoir des changements de mode de vie des habitants.
Et rapidement.
Et rapidement,
on le voit là.
Et donc, ça concerne à la fois des questions d'investissement, de mode de vie, c'est-à-dire consommer moins aussi, ou différemment, parce que ce n'est pas forcément punitif.
Donc, peut-être changer ses habitudes.
Voilà. Et puis, de valoriser aussi des savoir-faire d'habitants. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à dire que les habitants... c'est pas moi qui ai tendance à le dire, c'est démontré. Un habitant de Gennevilliers consomme moins de carbone qu'un habitant de Neuilly, par exemple. Son impact carbone sur la planète est moins important. Alors, il ne le fait pas exprès non plus, c'est parce qu'il a moins de ressources.
Ouais.
Mais c'est comment on fait d'abord une fierté de moins abîmer la planète dans notre ville, comment on valorise des savoir-faire aussi populaires qui sont, je sais, réparer, et donc on n'achète pas forcément neuf, et donc on est économe en ressources naturelles. On sait partager, on sait cultiver avec l'agriculture urbaine, on sait échanger, et puis comment on rentre moins dans un système de consumérisme pour faire en sorte qu'on soit plus économe dans les ressources. Voilà.
Eh bien, merci infiniment, monsieur le maire. C'était très intéressant de vous écouter sur ce sujet, le sujet du logement, de la crise du logement, on le voit, qui touche tous les territoires et particulièrement l'Île-de-France. Merci beaucoup.
Merci.
On se retrouve dans quelques instants, toujours en direct du salon de l'AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France. On vous fait vivre cet événement pendant 2 jours en direct à la porte de Versailles sur Radio Immo et sur Radio Territoria. À tout de suite.
Le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France en partenariat avec ACT Commodities sur Radio Immo et Radio Territoria.